Je vous souhaite un excellent début de soirée avec nous, aux amateurs de sport. C'est le moment d'accueillir Ray Lalonde pour la chronique Sport Business. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
À tout seigneur, tout honneur, Georges St-Pierre va annoncer sa retraite demain à Montréal. Il sera honoré au Centre Bell demain. C'est un des rares Québécois là qui atteint un statut de vedette globale. C'est tout un exploit, ce qu'il a réalisé tout au long de sa carrière.
Moi, je pense que on n'apprécie pas suffisamment Georges St-Pierre.
C'est peut-être le sport qui était difficilement digérable pour bien des gens. Là,
mais... T'as raison, mais lui a été un artisan de rendre ce sport-là plus accessible, pour certainement rendre la UFC plus riche, plus valorisée. Et malgré la violence de ce sport-là, c'est un athlète extraordinaire, comme ils le sont tous, mais il a permis à des gens de normaliser un peu la UFC puis les combats d'arts martiaux mixtes. Et c'est rare de voir un Québécois avec autant d'ampleur sur la scène mondiale, parce qu'on peut parler de hockey tant qu'on veut, puis des Maurice Richard, des Jean Béliveau, puis des Guy Lafleur, j'enlève rien. Mais là, on parle de Georges St-Pierre au Japon, comme on en parle aux Philippines, comme on en parle en Afrique, comme on en parle en Asie.
Sa retraite, c'est une nouvelle qui fait le tour du monde.
Absolument. Parce que à travers toutes ses années de carrière, il a commencé à UFC 46, son premier combat. Je pense que son salaire, c'était 6 000 $. Son deuxième contre Matthews, qui a perdu dans UFC 49, je pense qu'il y a eu 9 000 $. Écoute, lui-même est directement responsable de l'énorme popularité de la UFC. Une business qui a été vendue il y a quelques années, Mario, là, si ma mémoire est bonne, à 4 milliards $. Et aujourd'hui, ben lui, s'il se battait encore aujourd'hui, il ramasserait facilement 12 à 15 millions de dollars par combat, incluant les sommes et son pourcentage de pay-per-view. Alors, j'aime ça mettre des chiffres dans l'équation, mais c'est pour te montrer comment ce sport-là, au départ, les gars étaient payés s'ils se présentaient dans l'aréna. Alors, parce qu'il y avait des gars qui avaient un peu la peur, la crainte de leur vie, ils se présentaient pas. Alors, il y avait un bonus pour une présentation, un bonus pour une victoire, un bonus pour le combat de la soirée. Tu comprends-tu? Ce sport est parti de tellement loin, en une vingtaine d'années, c'est devenu accepté par tous. Puis surtout, je regarde ce que ESPN a dépensé. Mm-hmm. 1,5 milliard de dollars pour sécuriser exclusivement les soirées UFC sur ESPN+. Ça, c'est le app à 4,99 par mois qu'on s'abonne sur le OTT qui te permet d'avoir tous ces combats en exclusivité. Mario, quand ESPN et Disney s'embarquent là-dedans, c'est parce qu'ils savent très bien que le rayonnement de la UFC est incomparable. Et c'est un produit en ascension, absolument.
On va y revenir sur Georges St-Pierre plus tard à l'émission avec Jean-Paul Chartrand Jr. qui décrit tous les combats, tous les galas de la UFC à la télévision à la carte. Enchaînons avec un autre dossier, une autre histoire. C'est pas la première fois qu'on l'aborde, mais ça a pris une nouvelle dimension depuis les propos injurieux de Don Cherry qui a qualifié les Hurricanes de la Caroline de « bunch of jerks ». Que des joueurs décident d'eux-mêmes de manifester ainsi après des victoires à domicile depuis le début de l'année et continuer dans la même veine. Est-ce que c'est le rêve d'un VP marketing d'une organisation comme ça quand ça vient des joueurs? Parce que si c'est toi qui leur suggérais de faire ça, ils t'enverraient chez le diable,
probablement. Il n'y aurait aucune chance que ça marche. Alors, je peux te dire que quand c'est organique et que ça a été un peu conçu par eux-mêmes, ils en sont tous fiers. Mario, là, il y a une chose qu'il va falloir qu'on arrête, là, c'est de chaque fois qu'il y a de quoi de différent qui se produit dans le sport, on a tout de suite l'œil critique. Moi, je me souviens, en 2002-2003, on avait lancé des bobbleheads au Centre Bell. Parce qu'on avait de la misère à vendre nos billets au début. Puis les gens dans les journalistes montréalais nous critiquaient d'être cheap parce que les Canadiens n'ont pas besoin de bobblehead comme les Panthers de la Floride. C'est drôle parce que les soirées où on les a mis, on a vendu 3-4 000 billets de plus uniquement pour aller chercher les 5 000 bobbleheads disponibles de Guy Lafleur à Jean Béliveau. Tout ça pour dire que les Hurricanes ont de la difficulté à attirer des partisans. Les Panthers de la Floride aussi, les Coyotes d'Arizona aussi. Mario, les gens, sans cesse, parle du fait que, oh, il devrait avoir un club à Québec. Regarde comment ça marche pas dans ces villes-là. Alors, quand les équipes, à l'intérieur de leurs joueurs ou de leur organisation, créent des situations de divertissement marketing et que le public l'apprécie et que les médias en parlent, que demander de plus?
Que penses-tu de la récupération de l'insulte de Don Cherry en T-shirt « Bunch of Jerks »
Ben, ils sont pas pour se prendre contre Don Cherry. Alors, pourquoi pas se joindre à lui et faire en sorte qu'il crée du momentum positif autour de commentaires d'un gars qui est souvent contesté lui-même.
Mais alors, tu t'identifies à ça, là.
Absolument.
Nous sommes une gang de
si
jerks.
Si un T-shirt était à vendre ici, j'en achèterais un. Pourquoi pas? Parce que je supporte la cause de l'innovation, de la créativité et de sortir de ton carré de sable.
Anticonformisme.
Ben oui, Mario. Parce que les gens, là, tu sais quoi? Les gens restent après le match. quand ils gagnent, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, ne serait-ce que ça, tu crées un peu d'engouement, puis ils ont tous hâte à la prochaine occasion.
C'est-tu ce que je trouve intéressant là-dedans? Tu sais, Vegas nous ont fait toutes sortes de mises en scène avec des artistes puis des spécialistes de ça, mais la réponse de la Caroline, c'est que c'est pas un gros show de boucan, c'est juste les joueurs après une victoire. Alors, il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans.
Ils passent du temps, puis sais-tu pour qui ils le font? Pour les partisans.
Oui.
Et voilà.
Alors que nous, on se demandait si on pouvait avoir la moitié de l'équipe qui levait le bâton dans les airs dans une année de misère. T'sais, on est loin de ça quand ça vient des
ça
joueurs.
Ça prend une ouverture d'esprit. Puis les joueurs, là, il faut leur rendre hommage d'avoir eu le courage de se présenter avec ça et de se faire critiquer aussi par certains journalistes trop puristes.
Le propriétaire des Hurricanes, la Caroline, s'amuse donc vraisemblablement avec son équipe et ses manifestations. Mais là, il a décidé d'injecter un petit quart de milliard de dollars dans l'Alliance of American Football, qui en est à ses débuts, mais qui était déjà dans une situation de peut-être pas pouvoir payer ses joueurs.
Ouais. Alors ça, Mario, là, on va mettre un peu de contexte là-dedans. Alors, la Ligue a connu un excellent début. Il y a deux semaines de jouer, les cotes d'écoute sont solides. En plus, Mario, ils ont une relation avec CBS Sports, avec TNT et avec NFL Network. Eux, leur souhait ultime, c'est devenir une filiale de la NFL et d'avoir l'appui de la NFL au niveau marketing. Disons que c'est pas peu coûteux de commencer une Ligue. Alors, sauf que ce que je comprends de l'histoire, c'est que Charlie Ebersol, qui est le PDG, c'est le fils à Dick Ebersol, l'ancien Manitou de NBC Sports.
Qui avait tenté de lancer XFL avec Vince McMahon, c'est son partenaire, donc il a de l'expérience dans le lancement d'une ligue.
Alors, Charlie Ebersol et Bill Polian, lui, c'est l'ancien DG des Colts d'Indianapolis lors des bonnes années de Peyton Manning où ils ont gagné le Super Bowl. Alors, ce sont des gars crédibles. Ça coûte cher, puis ils n'avaient pas encore identifié le grand payeur, le grand investisseur. Alors, lui, Tom Dundon, le propriétaire des Hurricanes, quand il a vu le succès et la qualité du jeu sur le terrain, parce qu'à la fin, ça prend un produit de qualité, il a tout de suite dit « Moi, je serais intéressé. 250 millions, ça m'achète la place de, entre guillemets, commissaire, si on veut, le chairman. Pourquoi pas? » Parce qu'à la fin, ils avaient besoin d'argent. À la fin, ça coûte cher opérer des ligues. La plupart des business qui commencent chez les jeunes entrepreneurs échouent en dedans de 3 ans.
Mais penses-tu qu'ils vont avoir besoin d'un autre 250 millions dans 3 mois?
Absolument. Peut-être pas dans 3 mois, mais certainement dans 3 ans. Parce que je pense que le prix de base pour faire partir ça, le coût, là, c'est à peu près 750 millions en à peu près 5 ans.
Lui, est-ce qu'il est riche à ce point-là, le propriétaire des Hurricanes?
C'est pas Bill Gates. Ça, c'est clair. On parle pas de milliards. Mais c'est un gars qui a fait une bonne fortune. C'est un ancien banquier. C'est un ancien investisseur financier. Il a de l'argent. Et c'est un jeune avec un dynamisme et une confiance en soi qui est hors du commun. C'est pour ça que lui maintient les Hurricanes en pensant qu'il est capable de transformer cette franchise-là malgré les difficultés financières, Mario. Alors moi, je pense que c'est en plein de bons gars qui ont besoin pour ça.
Les cotes d'écoute en terminant là-dessus sur l'Alliance of American Football ont été intéressantes lors des premières diffusions, même se battant nez à nez avec un match de la NBA. Hein,
un bon match NBA, Rockets contre Oklahoma City Thunder. Ça a fait un 2.9 dans la première semaine. Mario, j'ai regardé 2 matchs à date. Là. La qualité du jeu, excellente. L'envie là, de suivre le match jusqu'à la fin, l'intérêt, le fait que ça soit des matchs serrés, beaucoup d'attaques et d'offensives. Moi, je te promets là, que 2-3 de ces joueurs-là, cette année, se retrouvent automatiquement dans les camps de la NFL au mois de juillet prochain.
Au baseball, Manny Machado a signé une entente de 10 ans, 30 millions de dollars par année, 300 millions au total. Il peut se retirer de cette entente-là après 5 ans. C'est avec les Padres de San Diego, mais plus globalement, consigne encore des contrats semblables, donc 300 millions sur 10 ans. Pour ceux qui pensent au retour des expos, on se dit donc, est-ce qu'on va encore développer des bons joueurs qui vont aller faire fortune ailleurs?
Bien, disons que c'est beaucoup d'argent et disons qu'il y a eu un ralentissement depuis 2 ans au niveau des joueurs autonomes. Ça, c'est vrai. Il reste Bryce Harper. Apparemment que Bryce Harper cible une entente parce que ça peut sortir incessamment.
D'une minute à l'autre.
De 326 millions. Parce que lui veut dépasser avec son agent Scott Boras le 325 de Giancarlo Stanton, qui est le plus gros contrat de l'histoire du baseball. Mais Machado et son 300 millions, c'est le plus gros contrat dans l'histoire du sport américain pour un agent libre ou joueur autonome. Alors, et c'est rare qu'on va voir ça de nos jours parce que les anciens contrats de cette envergure-là, Mario, se sont essoufflés rapidement. Puis le 10 ans, c'est ça le problème. C'est pas le 300 millions, c'est le 10 ans. C'est long pour un joueur. Mais Machado a 26 ans. Alors moi, ce que je pense, c'est que ça continue de pousser la compétition vers le haut. Puis toute jeune équipe qui veut rentrer dans le baseball ou dans le hockey va être assujettis à ces chiffres-là pour rester compétitifs. Prenons le cas des Expos. Si elle rentre dans la division S de la Ligue américaine avec Blue Jays, Red Sox et Yankees, ben apparemment, si tu veux gagner un championnat de division, il va falloir que tu supplantes les deux plus riches dans le baseball.
Est-ce que ça veut dire impossible. D'avoir un salarié de 30 millions par année? Ou est-ce que combien de clubs dans le baseball majeur ont des gars qui empochent des salaires semblables et qui sont compétitifs?
Écoute, il y a 5 ou 6 joueurs dans le baseball majeur qui ont 30 millions, mais il y en a plusieurs qui ont 25 et plus quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde les Padres de San Diego. Ils ont le meilleur système de filiales de jeunes, mais ils ont terminé au dernier rang l'an dernier quand même. Alors, ça ressemble un peu aux Expos à l'époque, parce que les Expos avaient d'excellentes filiales, mais perdaient toujours leurs bons joueurs parce qu'ils coûtaient trop cher. Là, les Padres ont décidé de dépenser. Alors, ils sont attachés à 528 millions avec 3 joueurs pour les 5 prochaines années. Mario, c'est beaucoup d'argent, là. Alors, est-ce que ça va leur permettre de compétitionner contre les méchants Dodgers et Giants juste en Californie? Pas certain de ça.
Ligue canadienne de football, quelle équipe, quelle organisation recevra le match de la Coupe Grey pour 2020? Et on peut se poser la même question pour 2021. J'ai développé un petit peu là-dessus il y a quelques jours et tout indique que ça se dirige vers Hamilton et que Montréal n'est pas dans le coup, Ray.
Non, mais tu sais, soyons réalistes. Hamilton a un stade neuf, Winnipeg a un stade neuf, Saskatchewan a un stade neuf. Je veux dire, Toronto joue au BMO Field. Tu comprends-tu tous des stades récents? Les Alouettes ne sont pas équipées pour accueillir un match à Coupe Grey, quoi qu'on se le dise. Puis deuxièmement, la plus grande crainte de la Ligue canadienne, c'est que si les Alouettes ne sont pas dans le portrait...
Ça tombe mort ici.
Ben là, un match ouais. Hamilton, là, Vancouver, ou Edmonton contre Toronto, honnêtement, à Montréal, pas certain. Puis je veux pas être négatif. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être réaliste. C'est la façon dont les Alouettes performent depuis 2 ans, là, c'est inquiétant. Alors, la Ligue canadienne et les autres propriétaires ne sont pas certains que leur bijou, la Coupe Grey, valent la peine de prendre le risque de se placer à Montréal au cas où les Alouettes ne performent pas. Parce que c'est pas juste une chose de jouer dans le match, c'est qu'il faut que tu aies une excellente saison pour garder les gens intéressés dans le produit du football canadien.
Un mot en terminant sur la situation des Steelers de Pittsburgh. Ça n'a pas été une bonne année pour cette organisation-là. Des conflits avec des individus très talentueux, dont Antonio Brown et Le'Veon Bell. D'ailleurs, l'organisation vient de laisser savoir qu'il va devenir agent libre, Bell, parce qu'on ne va pas garder l'étiquette de joueur de franchise. Ça lui valait 14,5 millions de dollars. On a trouvé des meilleurs qui coûte moins cher, mais peux-tu nous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que ça signifie l'étiquette de joueur de franchise? Et c'est ça que Bell refusait d'endosser l'an passé, c'est pour ça qu'il n'a pas joué.
Exactement. Ben, ça veut dire un contrat d'un an à un joueur qui est à veille d'être un agent libre joueur autonome pour le garder. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la moyenne des 5 plus hauts salariés à ta position de la NFL ou 120% de ton salaire de la saison précédente. Peu importe le chiffre qui est le plus haut. Alors, dans le cas de Le'Veon Bell, il a sacrifié son 14 millions l'an dernier parce qu'il insistait pour ne pas être identifié comme le joueur de franchise. Et là, il est agent libre. Il va aller où il veut. Mais il a perdu 14 millions dans l'histoire. Mario, je suis pas certain qu'il va récupérer ça dans sa carrière de footballeur. Il a sauvé une année en termes de santé, mais il a vieilli quand même d'un an. Alors, la question là-dedans, c'est est-ce que les Steelers, avec le problème d'Antonio Brown et le problème de Le'Veon Bell, puis les difficultés qu'ils ont eues avec Roethlisberger, est-ce qu'il y a un petit malaise à l'intérieur de l'organisation? Je les connais assez de grande classe, la famille Rooney, mais ça n'a jamais été ceux qui payent le plus, ça n'a jamais été ceux qui s'embarquent dans une enchère non plus, puis ils avaient deux des meilleurs joueurs à leur position respective. Ça se peut fort probablement qu'ils perdent les deux.
Pour qui jouera-t-il en terminant?
Excellente question, Mario. Honnêtement, là, je pense que Le'Veon Bell a le choix. Les demi-offensifs de ce niveau-là sont quand même très recherchés. Les carrières sont courtes, mais il y a une grande valeur sur le marché encore cette année.
Ray, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très intéressant, encore une fois.
Merci, Mario. Bonne soirée.
Bonne soirée à toi également. Dans quelques instants, on vous revient. Retour sur le match d'hier et, bien sûr, un regard sur celui de demain. Flyers canadiens avec Danny Dubé.